Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.
Donc en fait, la première étape, c'est lorsque vous ouvrez un compte auprès d'une banque, vous allez fournir un certain nombre d'informations. Sur votre situation personnelle, sur votre situation financière, votre situation professionnelle également. Donc ces informations vont être enregistrées dans une base de données dite client. Donc cette étape est indispensable au moment de la naissance du rapport contractuel afin que techniquement on soit en mesure de vous fournir les moyens d'utiliser votre compte, d'avoir un numéro de compte, une carte bancaire, un chéquier individuel ou un accès encore banque en ligne. Donc ça, c'était la première étape, c'est la collecte d'informations. La seconde étape, ça va être l'utilisation de ces informations. Donc en fait, chaque fois que vous allez vous connecter, si je prends l'exemple de la banque en ligne, à chaque fois que vous allez vous connecter à votre compte via un accès banque en ligne, il va y avoir une vérification d'identité, une vérification de droit. Est-ce que je suis le titulaire légitime du compte auquel je souhaite accéder via mon accès banque en ligne ? Celui à qui la banque a confié cet identifiant dans le cadre d'une convention de compte ? Donc la réponse est « je possède un mot de passe ». Donc a priori, la banque a confié spécifiquement de manière confidentielle à son contractant ce mot de passe. Donc là, il va y avoir trois solutions. La première, je suis le titulaire légitime du compte. La deuxième, je suis un tiers à qui le titulaire légitime a confié l'identifiant et le mot de passe en toute connaissance de cause. La troisième solution, c'est « je suis un fraudeur ». Et là, pour le coup, j'ai récupéré le mot de passe par des moyens détournés, par exemple le phishing. Donc on rentrera plus dans les détails avec David après. Donc en fait, une grande partie du travail de la banque, ça va être de vous authentifier à chaque fois que vous utilisez un moyen de paiement. Donc en fait, de stocker des informations qui permettent cette authentification, qui permettent d'assurer leur sécurité afin d'éviter les usurpations d'identité et donc l'utilisation frauduleuse de votre patrimoine. Donc la question, c'est comment protège-t-on ces informations critiques d'un point de vue juridique et technique ? Donc non seulement en fait les informations vous concernant qui sont enregistrées par votre banque sont couvertes donc par le secret bancaire, le secret professionnel, mais elles sont également protégées en fait au niveau de la protection des données à caractère personnel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse vite, donc je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails des législations et des réglementations, ça sera dans les papiers. Par contre, c'est vrai qu'au niveau protection des données, en fait, la banque a un statut de responsable de traitement, donc elle se doit de mettre en place ces traitements de données en conformité avec la loi informatique et liberté pour préserver la sécurité des données et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Donc on reprend les trois thèmes de la sécurité classique qui sont l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité. Donc néanmoins, malgré les mesures de sécurité renforcées qui sont mises en place par les banques dues à la criticité de l'information, on va voir avec David que ces dernières font régulièrement l'objet de cyberattaques, sujet qui nous intéresse particulièrement ici. Donc je vais passer la parole à David Bizol qui va vous présenter les trois cas de cyberattaques les plus fréquents en fait dans les banques. Donc vous avez le phishing monétique, dans lequel la victime pourra y perdre son numéro de carte bancaire. Vous avez les malwares bancaires, dans lequel en fait la victime pourra perdre beaucoup d'éléments sur sa vie privée. Et vous avez le déni de services distribués, dans lequel l'infrastructure bancaire elle-même est mise à mal.
Bonjour à tous, et merci Elisabeth pour cette introduction. Donc nous allons commencer par une thématique, un sujet, un type de malveillance que vous avez tous rencontré dans vos boîtes mail, je l'espère catégorisé comme spam, sinon c'est un peu plus dangereux. Mais c'est un sujet, on va dire, voilà, que tout le monde connaît et qui se présente, on va dire, dans vos boîtes mail avec des noms tout aussi évocateurs comme demande de remboursement, votre carte bleue a été annulée, ou alors fraude détectée. Bref, ce sont tous ces objets-là qui, en général, se caractérisent de la façon suivante. Vous commencez par avoir sur vos messageries des emails, on va dire, qui reprennent en général les marques soit de Visa, Mastercard, d'opérateurs ou encore de banques, hein, également. Et dès lors que l'utilisateur, l'internaute choisit de cliquer sur ces mails-là, il va se retrouver sur des pages web qui, encore une fois, on est en toute cohérence, hein, ça reprend les mêmes enseignes, les mêmes marques que celles de l'email, et on va vous demander de compléter des informations personnelles. Donc là, si je prends le détail ici d'un mail type Visa Mastercard, cher client, par mesure de sécurité, votre carte a été bloquée pour des raisons X ou Y. Pour la débloquer, merci de saisir vos coordonnées, et puis ce sera automatiquement débloqué. Bien sûr, tout ceci, on va dire, représente une belle arnaque, et les données personnelles et bancaires, dès lors qu'elles seront saisies par l'internaute en ligne, ne serviront pas à débloquer la carte en question, mais serviront exclusivement à alimenter le compte et une base de données d'un fraudeur. Donc en pratique, si on va un petit peu plus loin et qu'on creuse par rapport à cette fraude, comment ça se passe ? Eh bien, c'est assez simple. La plupart de ces fraudes sont orchestrées au Maroc. Bon, je fais peut-être une généralité, mais ça correspond quand même à un gros cas d'usage. Les données qui auront été collectées via les cartes bleues, les numéros de cartes bleues volées des clients, serviront, on va dire, à faire des transactions en ligne sur des plateformes de commerce électronique. Donc elles sont variées, hein. Ça peut être des achats de matériel numérique, comme des technologies à la mode, typiquement des ordinateurs, des smartphones, des iPads, bref, ce qu'on veut. Mais quand même, une investigation nous a montré que ce qui était le plus utilisé pour l'obtention de biens réels, c'était la récupération, on va dire, de tickets, de billets de vol pour faire des trajets, donc du Maroc vers d'autres pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, ça sert assez souvent pour faire des trajets entre le Maroc et la France. Donc comme quoi, l'argent volé au départ par les clients revient quand même quelque part d'une façon ou d'une autre, plus ou moins en France. Mais bon, faut aller chercher loin. Sur ce sujet, sur tout ce qui concerne les phishing de type monétique, comment est-ce que la banque peut essayer de faire le point et d'améliorer le dispositif de sécurité par rapport à ses clients? Ben le premier qui paraît peut-être une évidence, c'est au moins de se mettre à disposition des clients pour que eux puissent notifier à la banque ce qu'ils ont rencontré. De cette façon, on va dire, on va récupérer les signaux de première détection, les signaux qui vont venir très rapidement, des premiers clients qui vont être confrontés. À ce moment-là, ça nous permet d'enclencher des actions techniques de type fermeture des pages de phishing, puisque même si ce n'est pas forcément notre image, notre marque qui est impactée, puisqu'encore une fois, ça peut concerner, ça va être à l'entête de Visa, à l'entête de France Télécom, et pas forcément à l'entête d'une banque. On sait très bien que ce sont quand même nos utilisateurs, nos clients qui sont les données bancaires de nos clients qui sont volées en bout de chaîne. Donc on essaye d'être extrêmement rapide là-dessus et de faire fermer ces pages-là très rapidement. Maintenant, sur une approche plus préventive, on va dire, de la fraude, les banques ont déployé une technologie qui s'appelle 3D Secure. Enfin, c'est pas réellement les banques qui ont déployé, mais les banques poussent à l'adhésion de 3D Secure, qui rajoute une couche d'authentification pour les paiements en ligne. Donc vous avez sûrement tous déjà vu ou reçu des petits SMS lorsque vous essayez de faire une transaction en ligne. Ce SMS permet de rajouter justement une authentification sur un dispositif qui vous est propre, qui est le téléphone portable, et qui celui-ci n'est pas à disposition du pirate. Si bien que même si le pirate, on va dire, a collecté vos coordonnées bancaires, eh bien le SMS, il vous arrive à vous, et tant que lui ne sera pas capable de saisir ce qu'il y a indiqué dans le SMS, eh bien la fraude ne sera pas réalisée. En pratique, vous avez peut-être pour autant perdu vos coordonnées bancaires. Et on est assez régulièrement sollicité de la part de clients qui ne comprennent pas pourquoi sur leur téléphone portable apparaissent des demandes répétées avec apparition d'un petit code dynamique. Ces clients-là, en général, sont ceux qui se sont fait voler leurs données bancaires, et elles sont en train d'être utilisées par un pirate. Hein. Et en pratique, ça ne marchera pas, mais au moins ça permet de le détecter. Et dans le cas, je dirais le cas ultime, eh bien la banque, on va dire, renouvellera les cartes bleues de ces clients-là dès lors qu'on saura qu'ils ont leurs coordonnées, leurs données bancaires qui sont compromises. On passe à un deuxième cas, qui est également une réalité dans le monde bancaire. Quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Rassurez-vous, je vais essayer de le faire en très simple pour que ce soit compréhensible. Ce sont les cas de malware bancaire dont on a déjà, qui ont déjà été évoqués au préalable. Le principe est assez simple, quelque part. On peut diviser cela en quatre étapes. Imaginons un internaute lambda qui est devant son ordinateur, qui a une navigation tout ce qu'il y a de plus logique sur Internet. Alors imaginons navigation logique, ça va être je vais sur Google et je vais chercher, on va dire, le nom du chanteur de mon groupe de rock favori, ou alors je vais chercher le nom de mon équipe de sport favorite, ou encore une fois le nom d'un dernier produit technologique à la mode. Et le problème, c'est qu'il y a tout un schéma, un process de cybercriminalité qui tend à faire en sorte que justement sur les mots-clés fréquemment demandés dans des moteurs de recherche, eh bien on n'arrive pas forcément sur les pages sur lesquelles on souhaite aller, mais sur des pages qui sont compromises. Et ce qui va se passer, c'est que l'internaute va se retrouver sur une page où il aura son information, plus ou moins précise, mais également il va avoir une installation de quelque chose qui va se passer sur sa machine, un code malveillant qui va s'installer. Alors il ne va rien voir du tout, ça va être complètement transparent pour lui. Donc de ce fait, il n'y prête pas particulièrement attention, il continue sa navigation Internet. Et chemin faisant, puisqu'effectivement une consultation Internet dure quand même quelques minutes, cet internaute va continuer en allant voir ses données sur webmail, sa banque en ligne, va également faire des achats sur des sites de commerce électronique. Bref, quelque chose d'assez logique pour un internaute. Et c'est sur ces éléments-là qui vont être particulièrement intéressants, parce qu'on présente des données personnelles avec un login, un password, que ce soit sur un webmail, une banque ou un site de e-commerce, où là on va avoir directement le numéro de carte bleue. Et bien à ce moment-là, le malware qui sera installé ici va se déclencher et va collecter tout ce que va saisir l'internaute. Donc tout ce qu'il va saisir, ce sont bien sûr des identifiants permettant de donner accès, des numéros de carte ou autre. Et là où c'est dramatique, c'est globalement tout ça, c'est complètement transparent pour l'internaute qui, lui, n'y voit vraiment que du feu. Cette fois-ci, on change de source. Ça ne se passe plus au Maroc. Il y a un niveau de complexité qui est autre. La plupart du temps, on est sur une orchestration de la fraude, on va dire, qui est plutôt en Russie ou dans les ex-pays de l'Union soviétique. C'est essentiellement eux qui sont pourvoyeurs de ces technologies de logiciels malveillants bancaires et également utilisateurs de toutes ces données volées. Donc en l'occurrence, la plupart du temps, on a vraiment j'ai pris toutes ces images d'épices parce que ça représente un marché, on a vraiment une place de marché de la cybercriminalité, je crois qu'on vous en a parlé hier, dans lequel on va dire tout se vend et tout s'achète. Donc toutes les données qui auront été volées et qui auront été quelque part envoyées à un pirate en Russie vont être vendues probablement en gros sur Internet, c'est-à-dire que imaginons que vos données de carte bleue auront été volées, on va vendre un fichier avec par exemple 5 gigas de données volées, 5 gigaoctets de données volées. Donc parmi ces 5 gigas, il y aura peut-être vos données, mais il y en aura également des milliers d'autres utilisateurs français ou d'autres pays. Bref, quelqu'un sera sûrement intéressé par ces données pour une raison X ou Y, il les achètera, donc ça va être un achat par lot. Il va en faire ressortir les éléments qui pour lui sont intéressants, donc potentiellement c'est là que ça peut vous intéresser, et il va les mettre à profit. Donc à ce moment-là, on se retrouve directement dans un mécanisme de transaction frauduleuse, dans lequel on va dire donc un pirate va faire transiter de l'argent de votre compte vers une personne qu'on va appeler une mule, hein, c'est-à-dire qui porte l'argent pour quelqu'un d'autre, hein, un porteur pour quelqu'un d'autre. Une mule qui en général lui-même n'est pas forcément au courant du dispositif, c'est vraiment un fusible, enfin dans le schéma de la fraude, c'est vraiment un fusible qui est utilisé, et lui croira avoir souscrit ou croira s'être engagé dans un contrat, un genre de CDD d'agent financier qui est extrêmement intéressant, extrêmement lucratif pour lui, sauf qu'en fait il ne sert juste que relais, il n'est juste qu'un relais financier, et son seul but, c'est d'aller retirer de l'argent à un instant T, lorsque cet argent aura été transmis du compte d'une victime vers son compte à lui, et de le retransmettre. En général, on est sur des modes de retransmission qui sont numériques à travers des canaux de type Western Union, WebMoney, eGold. Il va le retransmettre au fraudeur originel qui, lui, va collecter tout le bénéfice de la fraude. La mule va récupérer un petit bénéfice, mais par contre, la mule a la forte chance de voir débarquer les forces de police le lendemain matin ou quelques jours après à 6h du matin. Sur ces problématiques, la banque, encore une fois, se doit de protéger ses clients à travers plusieurs axes. C'est beaucoup moins facile que le cas qu'on a vu tout à l'heure. La première, l'objectif, c'est de détecter ces codes malveillants qui potentiellement posent problème à la banque. Alors là, on est sur des principes technologiques qui sont très avancés. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le but, c'est vraiment d'avoir une vue un peu globale sur tous ces codes malveillants et de savoir quels sont ceux qui mettent en péril les données clients. Deuxième approche qui, encore une fois, est extrêmement réactive. Lorsqu'on détecte un code malveillant, soit à travers une analyse qui aurait été faite dans la banque, soit à travers une notification client, eh bien à ce moment-là, il sera urgent d'enclencher la fermeture de ce qu'on va appeler centre de commande ou la zone Internet sur laquelle vont être déposées toutes les données volées, ce qui, à ce moment-là, rendra ineffectif la malveillance. Encore une fois, on retrouve l'authentification forte. On n'est plus sur du 3D Secure comme tout à l'heure, permettant de faire des paiements sécurisés, mais on est sur des principes d'authentification forte permettant de s'authentifier de manière sécurisée sur le canal de la banque en ligne. Et encore une fois, soit on parle directement de l'authentification sur le canal de la banque en ligne, soit une autre approche de banque sera de sécuriser les transactions ou les opérations à risque. L'opération à risque, par exemple, dans la plupart du temps au niveau des banques françaises, ça va être l'ajout d'un tiers dans vos destinataires de RIB. C'est là qu'effectivement il y a potentialité à après aller faire sortir l'argent de la banque. Et une approche plutôt récente, mais qui est assez intéressante et qui tend à se développer dans les pays anglo-saxons, c'est d'aller que la banque pousse à aller jusqu'à la protection de l'ordinateur client. Donc pour favoriser l'installation de mise à jour sur vos ordinateurs, d'antivirus également qui sont à jour, voire de composants, on va dire, qui sont un peu dédiés bancaires et qui vont faire en sorte que sur votre navigation internet, il va y avoir une protection supplémentaire qui va être engagée lorsque vous allez sur des sites transactionnels.
C'est une annonce d'antivirus Société
Générale ? Non, ce n'est pas une annonce, c'est une démarche globalement qui est enclenchée aujourd'hui par un certain nombre de banques pour favoriser et faire en sorte au moins sensibiliser ses clients pour avoir un ordinateur sain. Dernier cas, pour lequel le client, on va dire, n'est pas forcément directement impacté, mais peut être indirectement concerné. Ce sont toutes les problématiques de déni de service distribué qui ont déjà été abordées jusqu'à présent. Je vais essayer de vous donner un petit transposition de ce qui se passe au niveau de la banque et la façon dont on le perçoit. En général, si on doit symboliser la façon dont marche une plateforme bancaire ou une plateforme quelconque par rapport à Internet, voilà ce qu'on a. On a un certain volume de clients qui sont un peu partout sur Internet. Dans notre cas, ça va être plus particulièrement en France, mais bon, là en l'occurrence, peu importe. On va avoir une capacité d'accès télécom, c'est-à-dire globalement, c'est la capacité de débit que vous avez ici pour vous connecter à Internet, pour que la banque soit connectée à Internet. Et ce volume moyen d'internautes que vous avez va se transcrire, on va dire, en un trafic moyen de ces internautes. Et ce trafic d'internautes va se traduire, d'un point de vue bancaire, par une charge moyenne au niveau de la chaîne de traitement. Si maintenant on imagine que le nombre d'internautes se multiplie de façon énorme et que ces internautes génèrent du trafic anormal qui va être perçu de façon un peu, encore une fois, anormale pour la banque, ceci peut engendrer une surcharge des composants bancaires qui ne seront plus capables du coup de répondre correctement. Et à ce moment-là, on est sur un principe de saturation. Donc c'est un premier cas de déni de service distribué. Un autre cas qu'on peut également envisager, de la même façon, on peut imaginer que des internautes sollicitent trop fréquemment ou trop intensément la liaison Internet reliant la banque à Internet. Et à ce moment-là, on a, je vais prendre un exemple simple, mais on a un tuyau qui est plein. Et si le tuyau est plein, il n'y a plus rien d'autre qui va passer. Donc à ce moment-là, tout ce qui est transaction légitime et connexion légitime des internautes sur le site de la banque ne fonctionnera plus. Les protections qui sont quelque part logiques face à ça, c'est tout d'abord déjà d'avoir un environnement qui est à peu près bien pensé par rapport aux accès télécoms, par rapport à l'architecture du système d'information. Monsieur Wolf en parlait tout à l'heure. On parle de système résilient. Le deuxième et le troisième point sont vraiment liés à des mécanismes de filtrage. Là, on peut imaginer le fait de filtrer du trafic malveillant. On mentionnait tout à l'heure des attaques orchestrées par le groupe Anonymous. Anonymous a des particularités lorsqu'ils attaquent des sites en déni de service distribué qui font que voilà, il y a certaines trames spécifiques qu'on peut repérer. Et à ce moment-là, il est plus ou moins possible, on va dire, de filtrer ce trafic-là. Si cela est encore une fois trop difficile, à ce moment-là, on peut imaginer de monter encore d'un cran et de faire appel à des structures directement opérateurs Internet ou fournisseurs d'accès à Internet qui seront, elles, plus à même de nettoyer directement devant... je prends l'image d'un nettoyage par le balai devant votre seuil de porte, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on repère comme n'étant pas normal peut à ce moment-là être filtré et jeté à la poubelle. Après ces considérations bassement techniques, je vais repasser la parole à Elisabeth pour conclure sur une, sur une approche plus juridique.
Donc, je vais juste vous dire quelques mots en fait sur l'arsenal juridique français face aux cyberattaques, qui est assez diversifié. Comme on vient de le voir, la victime n'est pas tout le temps la même. Si on prend le cas de la victime client de la banque, donc en fait, ce client pourra poursuivre l'auteur s'il est identifié. En attendant, une plainte contre X peut être déposée, mais l'auteur peut être poursuivi sur plusieurs fondements. Donc, pour vous en citer quelques-uns, vous avez la collecte frauduleuse, déloyale et illicite de données nominatives, donc qui est punie de 5 ans, enfin, pouvoir aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Pour ceux qui aiment bien les chiffres, c'est l'article 226-18 du Code pénal. Vous avez également l'escroquerie, donc l'infraction qui consiste dans le fait de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir ou à consentir un acte opérant obligation ou des charges. Donc là, pour le coup, c'est sanctionné par 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Donc toujours, pour ceux qui aiment bien les chiffres, c'est l'article 313.1 du Code pénal. Et je vais aussi vous citer, puisque c'est assez récent, mais la LOPCI 2, qui a introduit donc en droit français le nouvel article 226.4.1 dans le Code pénal, et donc qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait d'usurper l'identité de quelqu'un à son insu. Donc, à titre d'exemple, en fait, je voudrais vous citer la première condamnation d'un Français pour phishing qui a eu lieu en 2004. Donc, c'était un étudiant strasbourgeois qui avait créé un site internet qui reproduisait celui du Crédit Lyonnais. Et ça lui a permis d'obtenir donc les mots de passe et les coordonnées bancaires des clients. Il a détourné 20 000 euros. Et donc, au final, il a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 8 500 euros de dommages et intérêts pour escroquerie par phishing. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'était le tribunal correctionnel de Strasbourg du 2 septembre 2004. Donc ça, c'est dans le cas où la victime, c'est le client de la banque. Donc il y a d'autres, bien évidemment, d'autres fondements sur lesquels la victime peut s'appuyer. Mais alors, quand on part du principe que la victime, c'est la banque elle-même, par exemple, en cas d'attaque contre les systèmes de traitement automatisé de données, donc on a vu ça avec Monsieur le ministre Godefrin, puisqu'il a cité tous les articles, donc je ne vais pas revenir dessus, mais tout ce qui est accès et maintien frauduleux ou perturbation du fonctionnement d'un système de traitement de données, etc., en fait, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. La banque va également avoir la possibilité de contacter l'hébergeur ou le prestataire de service pour lui signaler, par exemple, le contenu illégal d'une page hébergée. Donc ça, c'est avec la LCEN, donc la loi pour la confiance dans l'économie numérique, du 21 juin 2004. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les délits et le droit, j'en dirai un petit peu plus dans les actes. Donc en fait, pour conclure, puisque je sais qu'on est assez pressé par le temps, je vais juste dire quelques mots sur la réalité des choses dans la banque. Parce que malgré l'arsenal juridique français en la matière, malgré la Convention sur la cybercriminalité qu'on a citée tout à l'heure de 2001, les problèmes de collecte de preuves, de cohérence dans les législations, de juridiction applicable, de coopération internationale, d'identification des auteurs des infractions, le hacker, faut pas se leurrer, est rarement français, eh bien tous ces problèmes vont être au cœur en fait des litiges et vont rendre difficiles, pas impossibles, mais difficiles, les sanctions. Donc du coup, face à la complexité du système judiciaire, l'objectif premier de la banque lors de la survenance d'une cyberattaque, ça va être de neutraliser la source, de maintenir le service et surtout de protéger ses clients.